c'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un anneau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les becs.
L'autruche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'autruche, l'émission... L'émission qui vous fait sortir la tête du sable. Votre programme présenté par les étudiants de l'ESJ Pro de Montpellier et de l'Université Paul Valéry. Je suis Louis Collat, votre présentateur aujourd'hui, accompagné de Thomas Bonnel. Bonjour Thomas.
Bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans l'Autruche, nous plongeons ensemble dans le milieu des artistes indépendants à Montpellier. Un métier, une passion, les deux. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment... Les musiciens indépendants, des artistes qui ont fait le choix de se lancer entièrement dans leur art et tout faire pour en vivre, entre les difficultés à trouver des lieux où se produire, les cachets touchés, son public, adapter son style, on va tenter de mettre la lumière sur ce statut et d'en déchiffrer les tenants et les aboutissants.
Au sommaire de cette émission, nous recevons en invité deux artistes indépendants de classe internationale, et oui, rien que ça, Gilles Marshall et DJ Snack, respectivement pianiste de jazz et DJ, pour percer à jour les secrets des musiciens indépendants. Pendant cette demi-heure ensemble, nous nous rendrons aussi dans le bar de la Pignata Radio, grâce au reportage de Julie Savary, Lucille Castelluccia et Salem Choplin, pour comprendre comment fonctionnent les lieux qui accueillent les musiciens indépendants. Et nous terminerons en beauté cette émission avec la chronique de notre journaliste Rio Manovel, qui nous vient avec un sujet surprise, mais plus que jamais dans l'air du temps. Alice Rollet est aussi avec nous aujourd'hui à la technique. Alors rangez vos plumes et vos ailes, car l'autruche lance sa course.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les becs.
L'autruche.
Avec nous dans le studio de Divergence aujourd'hui, Gilles Marshall. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et DJ Snack, Vincent, bonjour.
Hello, hello.
Donc Gilles, vous êtes pianiste de jazz, parti vivre de la musique aux États-Unis en 1970, où vous avez pu jouer dans les rues de la Nouvelle-Orléans et dans les bars de Los Angeles, en passant par les halls d'hôtels et restaurants. À ses côtés, donc je le disais, Vincent et Kay, DJ Snack, à ne pas confondre avec un autre DJ célèbre français aux lunettes de soleil. DJ Snack qui se définit lui-même comme anti-commercial et résident au Discopat et à Pignata Radio à Montpellier et qui vit de la musique maintenant depuis un an.
Messieurs, bonjour.
Bonsoir.
Bah pour commencer, messieurs, j'aimerais simplement vous poser une petite question. Mais c'est quoi pour vous être musicien indépendant ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est musicien indépendant ?
Je pense que je peux laisser déjà plus parler Gilles à ce niveau-là.
Alors, quand on décide d'être musicien indépendant, qu'on est très jeune, la première chose, c'est d'aller jouer dans la rue. Parce que les audiences ne sont pas captives. Et le challenge est là, quoi. Il faut les arrêter, il faut qu'ils s'arrêtent, il faut qu'ils vous écoutent. Et ensuite, il faut qu'ils vous mettent de l'argent dans le chapeau. Et voilà toute l'histoire. Et ça fait 50 ans que je fais ça.
Et rapidement, DJ Snack peut-être.
Ben, je suis, alors je sais pas que je suis pas musicien, je suis DJ du coup, mais c'est la question, c'est être indépendant, c'est ça?
Ouais.
Ben, c'est faire son, t'es ton propre patron, il faut te trouver ce qu'il faut pour comment dire en vivre, et c'est vraiment aussi basique que ça.
Ok, moi je vais revenir avec vous Gilles, oui. Donc vous êtes français et américain, vous oui. avez passé près de 35 ans dans le pays de l'oncle Sam et votre spécialité c'est le jazz, mais selon vous, est-ce que c'est un avantage plus globalement, est-ce qu'il y a selon vous des styles de musique plus simples à vendre par exemple dans les bars quand on est indépendant ?
Oui, il faut être éclectique, il faut toucher à tout et... Il faut voir quelles sont les audiences et quelles sont les musiques les plus appropriées aux audiences. Donc ça va du jazz moderne jusqu'à Frank Sinatra, quoi. Il faut comme dans la rue, il faut faire plaisir à l'audience.
Voilà. C'est ça.
Et vous rapidement, DJ Snack, vous définissez Thomas Lady comme un DJ anti-commercial. Alors qu'est-ce qu'on entend vous quand on vient vous voir mixer ?
Alors c'est anti-commercial, c'est un grand mot, c'est juste que je ne mixe pas de musique électronique, en gros, je mixe à 80% en vinyle, et quand je mixe du coup j'essaie de faire découvrir des univers qui sont pas tellement oubliés, mais une musique qui reste quand même assez solaire, on va dire, entre guillemets, et ça va être de la soul, du disco, musique brésilienne, le style est le brésilien boogie, mais c'est très solaire. 60-70, musique antillaise, de la begin, de la soukousse, ou encore de l'afrobeat, comme faisait Fela Kuti, ou des choses comme ça.
Ok. Et ça marche bien, ça ?
Eh ben, ouais. En fait, la phrase, je pense que la plus récurrente qu'on va dire que j'ai, c'est « Ah, ça change !» à chaque fois. Et je sais pas si parce que... En tout cas, là d'où je viens d'un petit bled que je pense que beaucoup de gens connaissent par rapport aux vacances, qui s'appelle Saint-Raphaël. Et là-bas, au niveau de l'éclectisme et de la diversité proposée au niveau des soirées et des musiques, ça reste techno ou commercial. Et c'est un peu une des motivations qui m'a poussé aussi à faire ça. À la base, c'était une blague parce que bien évidemment, vous doutez que DJ Snack, j'ai pas réfléchi 8 heures devant un bureau pour ce blaze, mais que c'était un peu une envie de... J'ai découvert la musique brésilienne en fait il y a 2 ans et j'ai fait, mais en fait, j'ai trop envie que les gens écoutent ça. C'est parti juste de là, quoi.
Et donc en soi, vous mixez que des sons que vous avez découvert récemment et qui vous font kiffer ?
Découvert récemment, oui et non. Après, il y a toujours des sons que j'ai découvert il y a 2 ans et que j'ai envie de passer parce que c'est je trouve ça incroyable. Mais c'est ouais, tous les trucs que j'ai découvert récemment, et c'est surtout des trucs qui me font plaisir, surtout. C'est vraiment des trucs des trucs que j'aime réellement. C'est pas que je mixe pas pour les gens, je mixe pour les gens carrément, que c'est mon métier de base, mais j'essaie d'abord, avant, me faire kiffer surtout aussi, parce que je pense que ça se ressent, que ce soit musicien ou DJ, que tu vois un gars ou une meuf qui genre kiffe pas trop ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, juste est là pour juste prendre son billet, les gens on a un peu rien à foutre en fait de tout ça.
C'est ça. Je vous coupe, messieurs, car il est venu l'heure d'accueillir Lucille dans le studio. C'est l'heure de la chronique de l'autruche.
C'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Nous allons maintenant nous intéresser à un lieu qui fait rayonner la culture musicale indépendante à Montpellier, le bar de la Piñata Radio. Lucille donc est avec nous aujourd'hui. Comment ça va ?
Ça va très bien, merci. Oui, la Piñata Radio fait partie de ces lieux essentiels pour les artistes indépendants à Montpellier. Ça permet aux artistes de se rencontrer, monter des collectifs comme System Sol, qui nous en parle dans le reportage. Et puis, surtout, c'est un moyen de propulser des artistes en quête de visibilité.
Ok, et bien place à la chronique.
Situé au 14 rue Rondelet, le bar de la Piñata Radio fait rayonner la scène DJ à Montpellier ainsi que ses artistes indépendants depuis son ouverture en 2024. Lucas nous explique l'idée à l'origine de cette initiative.
Je suis Lucas Slobodianu. Sur le papier, je suis studio manager, régisseur et assistant de programmation à Piñata Radio. Alors Piñata Radio, du coup, c'est une web radio qui a maintenant 7 ans, si je dis pas de bêtises. Et le bar dans lequel on se trouve là, ici, ça fait 1 an et demi qu'on l'a. Donc avant ça, c'était vraiment web radio dans un studio à Altropisme où il n'y avait pas de bar, pas de modèle économique, tout ça. Depuis qu'on est dans le bar, la web radio, elle a justement... ça nous permet d'avoir un modèle économique un peu plus stable, tu vois, de façon se rémunérer, nous, l'équipe, de façon à avoir aussi plus de moyens dans les events, dans le matos qu'on peut proposer pour les DJ, quoi.
Le bar de la Piñata Radio fait partie des nombreux tremplins pour les DJs indépendants de la ville de Montpellier et donne naissance à des collectifs de DJ. Le collectif System Sol nous raconte comment elles se sont rencontrées.
Notre collectif s'appelle System Sol, c'est un collectif féminin. On a créé ça lors d'une rencontre, d'un atelier, une session DJing qui était organisée par la Piñata Radio. Et en fait, on a bien matché, on n'avait pas envie d'arrêter et on a dit apéro mix et on a commencé à juste pratiquer ensemble. Et une semaine après, quasiment, on a un gig dans un bar et ils ont demandé qu'est-ce que c'était notre nom. On n'avait même pas de nom et donc System Sol est sorti.
Plus qu'un lieu de rencontre, le Piñata Bar permet de propulser des artistes émergents et faire découvrir des sets originaux, le tout dans une ambiance bienveillante et inclusive.
C'est un lieu qui est hyper important, déjà par le côté évidemment lancement d'artistes, sélecta musical, diversité en termes de style de la radio. Ça, c'est hyper, hyper important. Et il y a aussi le côté bar qui fait que c'est un vrai lieu de vie où il y a plein de monde qui va pouvoir se rencontrer, peut-être des gens qui ne savent pas qui ils vont voir et qui vont pouvoir découvrir des artistes, des gens qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, du DJing, et qui viennent juste boire leur café, mais qui en fait, du coup, se mettent à pouvoir entendre un style qu'ils n'auraient jamais été curieux de base. Moi, tout à l'heure, j'ai mixé de 16h à 17h et je voyais très bien que le public était très surpris d'entendre les sonorités que je pouvais jouer. Et je trouve ça hyper cool de pouvoir proposer ce, ce lieu qui est un mélange de deux formats, le bar et la radio, ce qui en général sont plutôt séparés. Et je trouve que le fait de mélanger les deux marche hyper bien. Et c'est plus qu'une radio, c'est un vrai lieu de vie.
On se veut éclectique. Pinata Radio, ça se veut être comme un espace où on donne la parole, que ce soit littéralement la parole ou la parole de par la musique, aux artistes, dont de jouer ce qu'ils veulent.
Léléon DJ, originaire de Paris, nous donne son regard sur cette scène culturelle qui se décentre peu à peu de la capitale pour rayonner à l'échelle locale.
Je suis Léléon, DJ basé à Paris, originaire de Paris. Je mixe depuis environ 9 ans maintenant. Après, la professionnalisation est arrivée plus tard. Principalement, du coup, dans les musiques électroniques, de la house à la bass music et tout ce qu'il y a entre les deux. Et c'est pas ma première fois à Pignata. Je suis déjà venue pour des radio shows cet été et l'été 2024. Parce que je suis souvent dans le coin du côté de Sète, du coup je passe une tête et je viens ici. Quand on arrive, on te dit bonjour, c'est cool. Enfin, en fait, on sent que t'es la bienvenue et que t'es pas une énième personne en plus pour compléter une grille musicale. Et ça, ça change vraiment la donne, je trouve, et c'est ce qui te donne envie de revenir. Et moi, quand les filles m'ont proposé, il n'y a pas eu un moment d'hésitation. Bien sûr que oui, on fait ça, quoi. Pour moi, d'un regard extérieur, c'est que du positif en vrai. Bah ouais. Et c'est important qu'on ait des lieux comme ça, et c'est important qu'on puisse pérenniser des lieux comme ça.
Au-delà des artistes, le bar a aussi conquis le cœur de clients en quête de découverte musicale et de bonnes ondes.
Tout ce qui est là est assez sympa, donc maintenant je viens de temps en temps, c'est un peu mon petit repère. C'est festif, là il y a toujours la petite musique, les gens sont sympas. Tu peux arriver dans ce bar-là et trouver des gens que tu ne connais pas, qui vont être tes meilleurs amis pour la soirée. Donc c'est vraiment un bar que je conseille à tout le monde.
Et de retour, merci Salem, Julie et Lucille pour ce reportage au cœur du bar Pignata Radio. Et je me tourne vers vous, DJ Snack, maintenant. Alors, on l'a évoqué un petit peu avant, le fait de se produire. Comment trouve-t-on des lieux où se produire quand on est musicien indépendant? Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour vous faire booker?
Alors, trucs et astuces, pas tellement, mais un truc par rapport à Pignata pour rebondir. Je suis résident là-bas, du coup, c'est ma deuxième saison et j'ai chopé un gig. Juste parce que j'ai vu un t-shirt sur un mec qui allait faire son émission. Et le spot, j'ai dit, putain, mais je connais ça, c'est à Toulouse et tout. Il fait, bah ouais, je suis le programmateur de ce lieu. On a matché en 2-2 et j'ai mixé là-bas, genre un mois après. Donc du coup, c'est des fois, comme pour rebondir ce truc de Pignata, c'est vraiment un lieu vraiment de rencontre. C'est vrai que, comme disait le Léon, on se sent pas un énième truc rapporté pour une programmation musicale. C'est vraiment pensé et c'est vraiment d'humain avant tout. Après, donc moi, pour mon côté, j'ai pas de booker. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure que ça faisait un an que j'en vis, ça fait un mois que j'en vis, réellement. Ça fait un an que j'ai pris ça au sérieux, parce qu'avant tout ça a été une blague, et j'ai commencé quand j'ai commencé ma résidence à Pignata Radio, où j'ai commencé à dire, bon, on va faire un petit truc un peu plus sérieux quand même, ça va être cool. Mais du coup, moi j'ai pas de booker, et sinon c'est des fois des gens qui envoient des mails, ou sinon c'est moi qui pour l'instant démarche et des rencontres, et c'est moi qui démarche souvent les bookers. J'ai aucune honte à le dire, de me dire que pas la terre entière veut que je mixe absolument chez eux, tu vois. Donc c'est vraiment genre, j'ai une petite routine, c'est le matin de à environ 8h30 à 10h30, je regarde des spots où j'ai pas envoyé de mail ou qui me plairait à mixer quelque part. Et en vrai, genre, c'est en fait, en indépendant, t'es ton propre patron, du coup. Donc, y a personne qui t'attend, en fait.
Je vous coupe. Vous parliez de gig. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est, peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas?
Un gig, du coup, c'est vraiment un DJ set. C'est un gig, c'est même pour un musicien. Un gig, c'est du coup, si t'es booké à tel endroit dans tel bar, du coup, t'as un gig. C'est genre une venue, comme diraient les Américains. C'est ça. Un gig, c'est genre un show que t'as à toi, quoi.
Ok, et je reviens vers vous, Gilles. Comment pour vous ça se passe? J'imagine que c'est peut-être aussi un peu plus compliqué de trouver des lieux où vous produire, sachant que pas tout le monde a un piano. Et c'est peut-être compliqué aussi de se balader avec un piano de bar en bar quand même.
Très compliqué, mais je suis soumis au piano électrique qu'il faut porter, surtout en été quand je joue en extérieur. Mais tout comme Vincent, c'est toujours à l'intuition, quoi. Il faut trouver un endroit et puis se présenter, et puis s'ils ont un piano, dire je peux jouer un peu de piano, et puis si ça leur plaît, et ben ouais, je pourrais venir. Voilà, c'est toujours, il faut se montrer, il faut montrer non seulement son talent, Mais le talent n'est rien du tout, 1%. À Hollywood, ils disent que le talent, c'est 1%, et le travail, c'est 99%. Voilà. Donc il faut être sûr de soi, il faut être confident, il faut avoir le feu sacré de se mettre dans des situations impossibles, mais et de quand même assurer, quoi. C'est ça le gig, quoi.
Et vous parliez d'Hollywood, comment ça se passe un petit peu aux États-Unis? Comment ça s'est passé pour vous, en tout cas?
À Hollywood, moi j'avais la chance d'être un French pianiste, tout comme à la Nouvelle-Orléans. Donc j'avais toujours une entrée parmi les restaurants français et les hôtels, parce que nous avons quand même un prestige, n'est-ce pas, les Français. Donc je pouvais jouer la musique French music, La vie en rose, 20 fois par soir. Mais ça n'a pas été trop difficile, mais Los Angeles est une ville très dure parce qu'il y a beaucoup de prétendants là. Je dis toujours que à San Francisco, quand j'ai vécu à San Francisco, j'ai appris le show, et à Los Angeles, j'ai appris le business. Parce qu'il faut arriver à l'heure, et tout ça.
C'est vrai, comme il disait Gilles, par contre, il y a vraiment un truc de culot, en vrai. C'était même des endroits où il y a aussi un truc aussi dans le monde du... Ça peut être aussi pour les groupes ou autant que pour les DJ. C'est il y a aussi beaucoup de pour avoir des gigs, de rencontres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que je connais, que même j'invite dans mes émissions, etc., qui me disent, il faut sortir. Genre, taper des afters jusqu'à 10h du mat, juste pour aller avoir des gigs. Moi, je suis... pas issu de ce monde-là, genre je suis pas un fêtard jusqu'à 8h du mat, et c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de culot, quoi. C'est faut jamais, on jamais se dire que parce que ce lieu est plus gros qu'on peut penser pour nous, genre faut juste y aller, et à tout moment, en fait, le mec il fait oui, tout simplement. Mais, ouais.
Et du coup, c'est pas un peu épuisant quand même au final de courir derrière les portes.
Ouais, courir derrière les portes, ouais, là pour l'instant il y a un jour où j'ai envoyé 20 mails, c'était hier, j'ai jamais eu de réponse pour l'instant, mais c'est pas grave, parce que c'est vrai que c'est un truc un peu, moi je débute vraiment, mais genre c'est vrai que des fois t'envoies des mails, t'as pas de réponse, des fois t'envoies des mails, tout le monde te répond, et des fois genre tu peux avoir des énormes mois, comme le mois que je viens d'avoir là en novembre, qui était fou furieux. Et des fois, tu regardes ton autre mois, tu fais « Putain, là, j'ai rien, bordel de merde. » Et c'est pas grave, mais c'est vraiment le jeu. Mais ça te pousse, j'ai l'impression que ça te pousse à te sortir un peu les doigts et genre te dire « Vas-y, en fait, je lâche pas le morceau, en fait, ouais. Tout simplement. » Parce que ça peut vite te mettre down et te dire « Bon, bah, en fait, personne me veut, je suis une merde, ciao, au revoir, tu vois. » Mais si tu lâches, bah, du coup, ouais. Bah, tu peux avoir que des regrets après, c'est un peu horrible, quoi.
Mais, et du coup, Gilles, je reviens vers vous encore une fois, mais ouais. Vous avez 35 ans de carrière dans la musique, autant aux États-Unis qu'en France maintenant.
Oui.
Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur d'être musicien indépendant maintenant?
Non, parce que les règles sont les mêmes. Si vous avez le feu sacré, si vous avez le travail accompli, et si vous avez, comme dit Vincent, le culot, c'est toujours la même démarche. Il faut y aller, il faut chercher, et il faut se faire confiance.
Ouais.
Et donc, une fois qu'on... C'est plus facile d'avoir un gig, ce qui devient difficile, c'est de l'assurer, n'est-ce pas?
Alors, moi, je vais revenir vers vous, DJ Snack. Alors, Gilles vient de le dire, c'est tout aussi dur d'être musicien indépendant ou pareil, mais comment on est payé exactement, et surtout combien on est payé, et comment ça se passe dans votre cas?
Alors, vu que je ne mixe pas en club et que je ne mixe pas dans des gros bails, du coup, je touche pas 10 000 par gratte, tu vois. Mais par contre, ça, je pense que Gilles pourra dire, on fonctionne en facture. Donc, c'est en fait, on est un prestataire. Et souvent, il y a quelques endroits qui préfèrent le cash. Mais le cash, c'est souvent, on va dire, plus des potes. Je sais qu'il y a des gens qu'on connaît un peu plus, etc. Mais j'avoue que ça se fait. C'est vachement plus rare, mais sinon ça fonctionne juste en forme de facture, et voilà, quoi. Après, pour les tarots, ça peut varier tout le temps. Ça peut être autant 100 balles que 300, que 400, ça peut monter encore. Et ça, c'est des petits tarifs pour des petites venues, mais genre si tu peux encore monter plus haut, réellement. Voilà. Donc, dans le cas de DJ, ouais, ça peut, franchement, un salaire de DJ, ça peut être 50 balles et une bière jusqu'à 100 000 euros tout défrayé, quoi.
Alors, pour le statut de Gilles, on reverra après, mais moi je voulais vraiment rester sur vous, parce que DJ et musicien, vous l'avez un petit peu dit, c'est pas exactement la même chose, même si on s'en rapproche très fortement. Et vous, dans votre cas de DJ, est-ce qu'il y a un statut particulier pour être mieux payé?
C'est pas pour être mieux payé, mais oui, il y a le statut d'intermittent, comme je pense qu'est Gilles, mais c'est le statut d'intermittent où t'es obligé de faire tant d'heures et tant de dates, en gros, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, je prétends pas à l'intermittence, peut-être plus tard, mais pour l'intermittence, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un certain alinéa, et on doit faire 43 dates pour après peut-être avoir le statut d'intermittent.
Et du coup, vous, Gilles, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez un statut d'intermittent, donc justement, ou combien ça gagne à peu près par soir en moyenne hein?
Alors, moi, je dis le plus possible. Voilà.
Bonne réponse.
Et parce qu'il ne faut pas aussi se sous-vendre de façon à avoir la prestation. Donc, il faut quand même demander quelque chose d'assez conséquent pour que les gens vous respectent, n'est-ce pas? Parce que si vous travaillez pour rien, ils vont vous dire, oh ben, voilà. Donc, je compte sur la générosité des gens. Et je suis parfois déçu, mais en général, les gens payent pour la musique. Il faut certainement leur faire plaisir, comme dans la rue, quoi. Mais là, ils sont captifs et il faut leur faire plaisir captifs, ce qui n'est pas facile non plus. Donc, je ne suis pas intermittent parce que je ne veux pas courir après 43 cachets en moins de 10 mois. Et donc, disons que je suis sur la scène et... Et les gens me payent, et les gens déclarent ce qu'ils me payent, ou pas. J'ai toujours mon chapeau, de toute façon. Donc je vis avec mon chapeau, et mon chapeau, il est gentil, mais pas toujours. Voilà.
Et ça marche, ça arrive à bien marcher, le chapeau, en France, ou je suppose qu'un peu moins qu'aux États-Unis, forcément?
Beaucoup moins qu'aux États-Unis. Alors donc, je pleure le chapeau quand je joue. Et récemment, de plus en plus... Et je m'amuse aussi à taquiner les Français avec cette histoire de chapeau, parce que quand on leur demande de l'argent, c'est toujours difficile en France. En Amérique, ça fait rire et ils donnent de l'argent. Ici, ça ne fait pas rire et ils ne donnent pas de l'argent. Donc je me promène entre des fois des gens qui sont très généreux et puis des soirées où il n'y a rien dans le chapeau, quoi. Voilà. C'est ma passion, c'est mon métier, c'est ma vie et... Tant que je m'en sors, ça va.
Ok, j'avais une dernière question. Elle était pour vous, DJ Snack. Alors, je vais introduire un petit peu. C'était pour les cotisations sociales. Comment ça se passe? Alors, pour notamment les retraites, notamment quand on est soit auto-entrepreneur, soit pas encore intermittent. Alors, pour vous, Gilles, ça va?
Moi, je suis un retraité américain. Je roule sur l'or.
Et donc, pour vous, DJ Snack, comment ça se passe, ce côté administratif qui peut être parfois lourd?
Alors, le côté administratif sur le plus tard ou le côté administratif de là maintenant?
Sur le plus tard,
j'en ai aucune putain d'idée, réellement. C'est pas un truc que je me pose comme question pour l'instant, vu que ça fait vraiment que un mois où je me professionnalise, on va dire, dans ce truc. Je suis désolé, mais je me suis pas du tout
intéressé. C'est très intéressant.
Mais par contre, c'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours, où je me suis dit, mais si ça paye, etc. Après, je pense qu'il y a tout un fonctionnement, etc. Mais c'est vrai que je me suis pas posé la question, c'est est-ce que t'es en auto, mais est-ce que tu cotises quand même, tu vois? C'est une question que je me suis posée, mais je me suis pas encore renseigné là-dessus, malheureusement.
Mais maintenant, cette jeunesse en France doit...
Mais qui vivra verra, hein, j'ai envie de dire.
Ouais, je ne sais pas comment la jeunesse va peut-être avoir des fonds de retraite, je ne sais pas comment vous allez faire. Il faut cotiser, quoi. Voilà.
Ouais, c'est sûr. Donc... Au pire, je me barrerai dans un autre pays, ça ira plus vite, j'ai envie de dire.
Aux États-Unis, par exemple?
Peut-être. Hein. Peut-être, normalement, l'année prochaine, j'ai un gig à New York, donc ça reste à confirmer. Je touche du bois, mais c'est en confirmation. Là.
Et donc,
French touch.
Ouais. Il n'y aura rien de français, mais ouais. À la limite, le truc français sera Céron, c'est tout.
Exactement. En parlant des États-Unis, transition toute trouvée, c'est Rioma, notre journaliste, qui s'est penché sur une nouvelle tendance, elle aussi, tout droit venue du pays de l'oncle Sam, et qui s'étend vitesse grand V dans le monde entier, et qui est venue pour en parler avec nous aujourd'hui.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Salut, bonjour à tous.
Alors, le suspense est immense, je dirais même qu'on trépigne d'impatience. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais faire durer un tout petit peu le suspense parce que tout d'abord, voici un petit morceau de musique pour embellir l'espace sonore.
Dust on the wind, boots
on the ground, smoke in the sky, no peace found. Rivers run red, the drums roll slow.
Voilà, avez-vous déjà entendu cette musique quelque part sur une plateforme quelconque ?
Du tout. Du tout.
Eh bien, vous venez d'écouter le groupe The Velvet Sundown et leur titre Dust on the Wind, groupe de rock ordinaire diffusé sur des plateformes de streaming musical. Mais la réalité est que ce morceau a été généré 100% par de l'intelligence artificielle. En juin dernier, ce même groupe avait dépassé les 3 millions d'écoutes sur la plateforme de musique Spotify. Des chiffres ahurissants pour ce groupe qui n'existe pas dans la réalité. Donc voilà, je me suis penché sur la question de la musique générée par l'intelligence artificielle et l'expansion de celle-ci dans le paysage artistique, en particulier la musique. De Xania Monet à Breaking Rust, le progrès technologique est arrivé à un tel point qu'il est difficile, voire impossible, de distinguer une musique créée par l'intelligence artificielle d'une création 100% humaine. Le mercredi 12 novembre 2025, la plateforme de musique française Deezer et l'entreprise de sondage française Ipsos ont publié un rapport concernant, je cite, « les attitudes et les perceptions autour de l'intelligence artificielle et de la musique menées dans 8 pays du monde auprès de 9000 personnes ». Et donc lors d'un test à l'aveugle auprès de l'échantillon, qui comportait 2 morceaux IA et 1 réel, il est écrit que 97% des auditeurs n'ont pas réussi à faire la différence entre musique artificielle et humaine.
Mais alors Ryoma, pourquoi y a-t-il un tel engouement autour de l'IA dans le secteur musical ?
Pour certains artistes, cela apporterait une nouvelle forme de créativité et une diversification des techniques pour élaborer de la musique et des compositions. Une enquête du Centre National de la Musique réalisée auprès de professionnels des différents métiers de la musique révèle que cet engouement est lié à, je cite, « une stimulation de la créativité et l'exploration possible de nouvelles esthétiques, la réduction des coûts de production et le recentrage sur des tâches créatives ». Les artistes chercheraient à émanciper donc leur pratique de création musicale. En plus, l'arrivée des plateformes Suno et Udio ont amplifié la production de morceaux IA, créant un duo fictif entre The Weeknd et Drake, ou encore un album totalement reproduit par des fans avec les voix du groupe Oasis, qui est d'ailleurs renommé pour l'occasion Iasis. De nombreux serveurs Universal et Warner Music ont récemment en plus ouvert leurs portes à l'utilisation de l'IA, sans forcément savoir que celle-ci dévalue des productions indépendantes. Un impact est vraiment à prévoir sur plusieurs métiers autour du secteur. Le scientifique français spécialiste de l'IA Jean-Claude Eudin explique dans son ouvrage « Musique et données » que l'IA constitue un hyper-instrument qui changera forcément le paysage musical dans quelques années. Il apporte tout de même cette nuance où, selon lui, elle ne remplacera jamais les vrais artistes ou instruments originels.
Et ça ne risque pas de s'arrêter alors. J'imagine quand même que certains musiciens doivent être alertés par cette progression. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées par des artistes pour témoigner de leurs inquiétudes ?
Effectivement, des lettres ouvertes et des pétitions ont été lancées par des collectifs musicaux en France, au Royaume-Uni également, pour avertir sur les dangers de l'IA dans le secteur musical. Récemment, une tribune française intitulée « Ne laissons pas l'IA tuer la création musicale » a été publiée sur le site web du journal Libération, signée par plus de 450 artistes francophones, mais aussi des organisations comme Adami, des producteurs et des distributeurs de musique. Parmi les principaux points évoqués, on retrouve la protection de la notoriété, la rémunération des artistes et des droits d'auteur, préserver l'émergence des genres et des diversités esthétiques, et surtout une meilleure transparence et prise de conscience des pouvoirs publics en encadrant davantage l'utilisation de l'outil IA, un peu comme ce qui a été fait en Californie avec les chatbots. Donc voilà, l'expansion de l'IA paraît inarrêtable. Je pourrais vraiment en parler longtemps car le sujet devient très vaste et le progrès technologique autour de l'IA ne cesse de gagner du terrain. D'ici quelques temps, cela a encore sûrement évolué. Mais des doutes persistent à équivalence avec les doubleurs de voix de dessins animés qui se battent pour la survie de leur métier.
Merci beaucoup Ryoma pour cette chronique plus qu'instructive. Dans tous les cas, nous, on va essayer de rester vigilants, à écouter de la musique créée par des humains, parce qu'au final, les seuls robots qu'on prend encore un peu de plaisir à écouter, ça reste quand même les Daft Punk. En tout cas, je voulais juste revenir un petit peu sur ce sujet-là. Peut-être Gilles, en quelques mots, est-ce que vous avez une réaction un peu face à ça ? Est-ce que vous voyez d'un bon œil l'arrivée de l'IA dans la musique ? Même si on a tendance à penser qu'un musicien de jazz, qui joue en live peut être un peu moins inquiété.
La live, l'intelligence naturelle, ça me permet de faire... Voilà. Et donc, si l'intelligence artificielle arrive à faire... Voilà, bon. Moi, je me tairais, mais ils ne me font pas pleurer parce que Thelonious Monk, grand pianiste de jazz, a toujours dit « Live is better ».
Ok. Et vous, DJ Snack, en un mot aussi, rapidement?
Pour l'IA, je trouve que c'est... Il y a beaucoup de comptes Instagram que je suis, mais où c'est vraiment précisé que c'est de l'IA et c'est absolument bien fait. J'ai déjà utilisé Suno et Udio, vraiment juste à pur but, comment dire, humoristique, entre guillemets, on va dire. On a même publié avec un pote un morceau sur Bandcamp, vraiment parce que, mais on a dit que c'était de l'IA. De toute façon, tout ça se voit que c'est de l'IA, c'est mal fait, c'est drôle à faire. Mais par contre, d'un autre côté, si ça reste juste récréatif, c'est marrant pour faire rigoler les gens. Après, par contre, c'est vrai que genre sur les trucs de Spotify, genre, je suis déjà tombé sur des morceaux en IA et que ce soit genre fait que l'algorithme pousse ça, je trouve ça aberrant et dégueulasse par rapport à des vrais artistes qui essayent de s'épaire et que je trouve ça juste nul à chier, quoi, tu vois. C'est, l'IA, c'est cool quand ça reste récréatif à la limite, même si en plus c'est écologiquement c'est une catastrophe malheureusement, mais sinon c'est pas récréatif, c'est juste nul à chier, quoi.
Merci. Ok. Mais le temps passe et passe, messieurs, mais il est déjà l'heure de nous quitter. Merci Gilles Marchal et DJ Snack d'être venus nous parler de votre métier et passion. Merci à Salem, Julie, Lucille d'être venus nous présenter leur reportage chez Piñata Radio, au plus proche de ceux qui font vivre la scène musicale locale. Merci à Rioma pour sa chronique très instructive sur l'IA et la musique, et surtout un grand merci à Alice qui était à la technique avec nous aujourd'hui. C'était L'Autruche, votre émission sur Divergence, concoctée par les étudiants de l'ESJ Pro de Montpellier et de l'Université Paul Valéry. Et pour finir, je vous propose de se quitter en musique avec l'un de vos titres, Gilles, que vous nous avez gentiment envoyé. C'était Louis Collat et Thomas Bonnel pour L'Autruche. À la prochaine.
Au revoir. Peace. Au revoir.